Chapitre 39. Durant le trajet en train de banlieue, ils restent silencieux, la tête baissée sur leur portable, et laissent parfois errer leurs regards sur les visages fatigués des voyageurs et sur les bâtiments qui défilent à travers la vitre. Ils descendent à la gare de Barkarbu, prennent l'escalator et se dirigent vers les portes qui donnent sur le viaduc. Elle le suit sur le pont qui enjambe les voies ferrées et l'autoroute. Ils traversent une pelouse et pénètrent dans un quartier d'immeubles. Toutes les façades des bâtiments sont en crépi jaune, avec des petites fenêtres et des balcons en tôle ondulée. Ils franchissent le porche du troisième bâtiment et montent les escaliers jusqu'au deuxième étage. Rick ouvre la porte, ramasse le courrier sur le tapis du couloir et la fait entrer.
« C'est sympa ?»
dit-elle lorsqu'il pénètre dans le salon.
« Oui, mais un peu trop grand. Mon ex a déménagé à Huguenas l'année dernière. »
« Je me suis fait larguer, » sourit-il. Il prend une serviette propre dans l'armoire de la chambre et la lui donne. Elle attrape son sac de sport et va s'enfermer dans la salle de bain. La battant et la lunette des toilettes sont relevées, des poils de barbe sont collés dans le fond du lavabo et il n'y a qu'une brosse à dents dans le verre. Elle cherche mécaniquement des caméras cachées, puis ouvre la petite armoire. Il n'y a ni maquillage, ni tampon, pas non plus de rasoir rose, ni de parfum féminin. Elle n'en peut plus d'être toujours aussi suspicieuse. Mais ce n'est pas la première fois qu'un homme prétend être célibataire pour coucher avec elle. Saga retire ses vêtements trempés de sueur, les jette par terre à côté de son sac et se regarde dans le miroir. Ses muscles sont encore gorgés de sang après sa séance de sport, et sa poitrine est striée à cause de l'élastique de sa brassière. Elle ouvre la porte en plastique givré de la douche, tourne le bouton du mitigeur, attend que l'eau soit chaude, et entre. Elle met dans sa paume un savon liquide nommé Prospore, se lave soigneusement, et regarde la mousse disparaître sous ses pieds dans le siphon. Elle reste encore un moment sous le jet d'eau chaude, sentant les muscles de sa nuque et de son dos s'assouplir, avant de fermer le robinet et de se sécher. Son corps est encore légèrement humide lorsqu'elle enfile ses vêtements propres. Bien qu'elle ait essoré ses cheveux plusieurs fois, de l'eau dégouline des pointes lorsqu'elle entre dans la cuisine.
« Merci pour la douche. C'est gentil, » dit-elle.
« Tu veux quelque chose ? Une tasse de thé ou un jus de fruits ? J'ai pas grand-chose. »
« Non, merci, c'est bon.
On peut se faire des croque-monsieur, si t'as faim. »
Elle secoue la tête,
croise ses grands yeux bruns, se tourne vers le couloir de l'entrée et dit qu'elle doit rentrer.
« Je te regarde depuis le début.
Jusqu'au jour où tu n'es plus revenu, » dit-il.
« Mais j'ai jamais osé m'approcher de toi pour te parler. »
Elle sourit, sans rien trouver à dire. Elle comprend que son nouveau statut de champion l'a rendu plus courageux et se dit qu'elle peut bien coucher avec lui s'il le souhaite.
« Ton débardeur est mouillé. C'est toujours comme ça. J'ai pas la patience de me sécher les cheveux.
Je peux te prêter un t-shirt, si tu veux. » Elle l'accompagne jusqu'à sa chambre où trône un énorme lit presque carré. Un plaid bleu clair est plié au bord. Sur la table de chevet trône une petite lampe avec une base en porcelaine brillante et un abat-jour en papier blanc. Il ouvre un tiroir, en sort un t-shirt avec le logo Nike et le lui donne.
« Merci. »
Elle retire son débardeur et se tient devant lui dans son soutien-gorge en viscose blanc transparent.
« Tellement belle »
murmure-t-il avant de déglutir. Puis, il tend la main vers elle, écarte quelques mèches humides de son visage et la regarde avec gravité. « Tu as déjà quelques cicatrices, » dit-elle en touchant la fine ligne blanche sur sa pommette. Elle fait glisser le bout de son doigt sur sa petite cicatrice sur l'arête de son nez. Il se penche en avant et l'embrasse sur la bouche. Ses lèvres sont chaudes et douces. Elle sourit.
l'embrasse en retour. Le laisse la guider sur le lit, lui embrasser le cou, lui lécher les mamelons à travers le tissu transparent et ne bouge pas lorsqu'il déboutonne son jean avec des mains tremblantes et le baisse. Il retire son pull et le balance sur le tiroir ouvert de sa commode. Il est musclé, mais encore mince comme un garçon. Il a un cœur rouge entouré d'épines tatouées sur l'épaule, un bleu sur les côtes et un autre sur le haut du bras gauche. Il retire rapidement son pantalon, mais garde son caleçon et sa montre autour du poignet, puis s'étend sur elle dans le lit moelleux. Elle ne bouge pas pendant qu'il l'embrasse à nouveau et qu'il glisse sa main dans son soutien-gorge. Il presse doucement un sein, embrasse le bout de son menton, son cou, puis la regarde d'un air inquiet. « Tu veux qu'on continue ?» demande-t-il. « Si tu en as envie. » Il embrasse maintenant son ventre, lui enlève sa culotte, lui embrasse le pubis, l'aine, puis écarte doucement ses cuisses. Elle pensait qu'il serait plus empressé, qu'il irait bien plus vite. Il descend le visage vers son sexe, et elle sent son souffle chaud contre sa vulve. « T'as pas besoin ?» murmure-t-elle lorsqu'il commence à la lécher. Elle ferme les yeux, essayant d'éloigner toute sensation. Mais elle sent son sexe devenir humide. La langue de Rick glisse le long de ses lèvres, chatouille son clitoris et l'aspire doucement. Elle pose une main sur sa tête, passe ses doigts dans ses cheveux courts et ne peut plus résister au plaisir. La langue chaude de Rick glisse en elle. Elle gémit involontairement et se met à penser à de l'argile chaude, malléable, soyeuse et humide. Si on y enfonce doucement le doigt, la matière l'aspire comme une ventouse. Si on y fait une petite entaille, l'eau au fond remonte. Elle contracte ses cuisses et son fessier, se détend, puis les contracte à nouveau. La langue de Rick suit ses lèvres, tourne autour du clitoris et revient. Elle veut qu'il continue encore un peu et lui tient la tête entre ses mains. Ses orteils s'engourdissent, ses cuisses commencent à trembler, sa respiration s'accélère. Elle se contracte, puis repousse sa tête juste avant que l'orgasme ne vienne. Elle se dresse, voit ses sous-vêtements et son jean par terre et sent une chaleur lancinante envahir son entrejambe. Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui demande-t-il d'une voix douce. Rien, répond-elle, les joues en feu. Il faut juste que... Il la regarde l'air inquiet. Elle se dit qu'elle doit partir, que Stéphane et ses amis l'attendent. Mais elle se ravise et tente de sourire à Rick. Tu as des préservatifs quelque part ? Murmure-t-elle. Il fait un signe de la tête, sort la boîte de la table de chevet et, les mains tremblantes, en retire un petit sachet brillant. Elle s'allonge à nouveau, le regarde, voit ses grands yeux sombres, lui tend la main et lui chuchote d'entrer en elle. « T'es sûr ?»« Oui. » Il se rallonge sur elle. Tout son corps est chaud et lourd. Elle écarte les cuisses et le laisse la pénétrer. « Madre de Dios !» murmure-t-il. Elle le serre dans ses bras et lui tient fermement le bas du dos quand il opère des mouvements de va-et-vient tout en gémissant dans son oreille. Lorsqu'il s'enfonce plus profondément en elle, elle lui agrippe le dos, lui caresse les fesses, suit avec ses hanches ses mouvements qui s'accélèrent. Le lit craque et de petites particules de poussière se soulèvent et tournoient au-dessus d'eux en scintillant. Leurs deux corps se reflètent dans le pied de la lampe qui brille sur la table de nuit comme un dessin érotique fait au crayon. Rick respire de plus en plus vite, son dos devient humide et se cambre quand il éjacule. Le corps lourd et le souffle court. Il s'affaisse sur elle. Elle sent les battements rapides de son cœur contre sa poitrine. ses muscles qui se relâchent. Il maintient le préservatif sur son sexe avec sa main et se retire avant de devenir trop mou. Puis il roule sur le dos et s'allonge à côté d'elle, lui embrasse le front. Il reste enlacé un moment. Puis il commence à parler. La voix de Rick est joyeuse et détendue. « Je sais même pas ce que tu fais dans la vie, » dit-il. « Pareil pour moi. Je suis menuisier de formation. Je travaille dans une petite entreprise de construction, ABC Construction. » Un nom inventif, sourit-elle. « Je sais. » Le soleil du soir s'immisce à travers les stores et projette de doux reflets sur le mur. « Moi, je travaille dans différents domaines, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de me le dire. J'ai été en congé maladie pendant un certain temps. J'ai fait une sorte de burn-out. » précise-t-elle en se redressant. « Si t'as besoin de travail, je peux en parler à mon oncle. Il est propriétaire de quelques restos et a toujours besoin de monde. Merci. » sourit-elle, et elle commence à s'habiller. « J'ai déjà travaillé pour lui plusieurs fois. » Faire la vaisselle, couper des oignons, c'est pas franchement drôle, et c'est vraiment mal payé, mais c'est mieux que rien. Et on peut toucher une partie de son salaire au noir si on veut. En ce moment, je suis sur quelque chose. On verra comment ça se passe, répond-elle en enfilant son débardeur. D'accord, mais maintenant tu sais. Merci, je t'en prie. Un sourire aux lèvres, elle replie son t-shirt et le range dans le tiroir, puis elle s'approche du lit, l'embrasse sur la bouche et lui dit au revoir. Alors qu'elle arrive sur le trottoir dans l'air nocturne et qu'elle commence à marcher vers la station Barcarbu, elle l'entend crier son nom. Elle se retourne et le voit sur le balcon, sans vêtements, en train de lui faire signe. Elle lui envoie un baiser de la main, puis continue à marcher. Et sent son cœur palpiter pour la première fois depuis longtemps. Elle n'est peut-être pas prête à être heureuse. Elle ne mérite peut-être pas Rick ou Randy, mais elle doit arrêter de se punir, de se faire du mal. Elle sort son portable, bloque Stéphane Broman, puis appelle la police et dépose une plainte anonyme contre lui pour violation de la loi interdisant l'achat de services sexuels.